9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Comme un pied de nez à ceux qui défilent chaque samedi contre le système, le nouveau livre d'Alain Minc est un voyage au centre du système. Qui détient vraiment le pouvoir en France? Le président, les grands patrons, les propriétaires des grands médias? Les réponses d'Alain Minc, parfois surprenantes, il sera notre invité dans un instant. Demain, en 2050, redoutable défi, nous serons 10 milliards d'humains qu'il faudra nourrir sans saccager la planète. C'est possible pour un groupe d'experts dont le rapport vient d'être publié, à condition de changer de régime alimentaire, diviser de moitié la consommation de viande rouge et de sucre et doubler celle des fruits, des légumes et des noix. J'ai demandé à la géographe Sylvie Brunel de commenter ses conclusions. Au générique également, l'écrivain Michel Lebré qui publie « Pour l'amour des livres » et qui nous fait partager cet amour. Et puis une star, l'acteur Viggo Mortensen, qui joue un italo-américain dans l'excellent Green Book, mercredi sur les écrans, mais qui dans la vraie vie parle français comme vous et moi.
Les gens qui disent « bon, c'est un bon moment maintenant pour Green Book, pour un film comme ça », oui, c'est un très bon moment, mais c'est toujours un bon moment pour ce film. Parce que la discrimination, le racisme, ça va pas disparaître.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Alain Minc.
Bonjour.
Vous avez donc eu le culot de faire imprimer un gros mot sur la couverture de votre livre « Système ». Ce système conspué chaque samedi depuis 2 mois et dont vous êtes l'une des incarnations depuis 40 ans au cœur de tous les pouvoirs. D'abord, que dites-vous à ceux qui clament que ce pouvoir a été confisqué aux citoyens et qui réclament qu'on leur rende ?
Écoutez, j'essaye de décrire le système avec des guillemets, donc gros mot avec des guillemets, parce que la vie a fait que j'ai connu 4 systèmes de pouvoir, bien que je les connais encore, le système politique, le système économique, le système intellectuel et le vôtre, le système médiatique. Il n'y a pas de société sans système de pouvoir. Quand on croit qu'il n'y a pas de système de pouvoir, on fabrique l'Union soviétique. Donc il faut partir de ce constat. Après, il y a un marqueur de tout ce les populismes, qu'on appelle les populismes, qui est la haine des élites. Et je pense que la bonne question n'est pas celle-là. Il n'est pas de dire les élites ont raison, elles ont la science infuse. C'est de dire est-ce que ces élites, dont toute société a besoin, sont représentatives de la société elle-même.
Et pour la France ?
Et je pense que de ce point de vue, nous sommes en train de régresser. Quand il y a 50 ans, c'est pas hier, j'étais en classe de préparation aux grandes écoles, le nombre d'enfants d'ouvriers ou de classes modestes entrant à l'école polytechnique, à l'école des mines, partout, était probablement 3 fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui.
3 fois supérieur ? C'est quoi ? C'est une faillite éducative ?
Oui, alors ça n'a rien à voir, quoi qu'en pensent les gilets jaunes et tous ceux qui se reconnaissent entre eux. Ça n'a rien à voir, en réalité, avec la mondialisation, la globalisation. Ça a tout simplement à voir avec le fait que dans les classements internationaux, qu'on appelle les classements PISA, nous reculons régulièrement, sans discontinuer depuis 20 ans. Donc ça a à voir avec notre capacité de gérer le système éducatif, avec les valeurs qu'on lui inculque, la longue période de non-valorisation de l'effort, du travail, d'une espèce d'égalisation molle, aboutit à la pire des inégalités. Voilà le vrai sujet.
L'inégalité culturelle ?
Mais les inégalités, la réalité, c'est qu'on se centre beaucoup sur les inégalités monétaires. Et la grande divergence que j'ai avec Thomas Piketty, qui a écrit cet énorme bouquin, Le Capital, c'est qu'on s'occupe des inégalités monétaires pour une raison très simple, c'est qu'il y a des chiffres. On ne s'occupe pas de ce que Pierre Bourdieu, et je ne suis pas un bourdivin, parce qu'il ne faut pas dire bourdieusien, il faut dire bourdivin pour appartenir au système. Vous savez, le système, il y a des déclencheurs comme ça d'appartenance.
Conversation parisienne,
bon, c'est qu'il existe ce qu'on appelle le capital culturel. Oui. Le capital culturel, ce n'est pas seulement le savoir, c'est l'appropriation des codes comportementaux, c'est l'appropriation des règles implicites. Et donc, nous avons un problème, de ce point de vue, d'accroissement fantastique des inégalités socio-culturelles, presque plus qu'éducatives.
Mais les inégalités monétaires, vous en parlez aussi à la main, que vous expliquez que le principal ennemi du capitalisme, c'est sans doute le capitalisme lui-même. Est-ce que réduire les inégalités culturelles serait suffisant pour réduire les inégalités monétaires ? Pour le dire autrement, est-ce qu'un enfant d'ouvrier ou de milieu modeste qui deviendrait grand patron serait moins tenté de s'octroyer des rémunérations indécentes ?
Non, il y a des contre-exemples. Mais le vrai problème des inégalités monétaires, C'est en effet l'excroissement des inégalités dans tous les pays occidentaux au profit du 1% le plus favorisé. Parce que pour le reste, la France, grâce à son système de redistribution, est un pays relativement égalitaire. Beaucoup plus que, pas seulement les pays anglo-saxons. Alors, c'est vrai que, pourquoi cet écart dans les entreprises? Pour une raison très simple, c'est la disparition des syndicats. C'est-à-dire, le meilleur contre-pouvoir au patron, ce sont normalement les syndicats. Nous sommes dans un pays désyndiqué. Il faut voir quand même que nous sommes le pays de l'OCDE le moins syndiqué, moins que la Turquie. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas les syndicats pour servir de contre-pouvoir, vous êtes dans une situation où prévaut seulement une forme d'autodiscipline. Et je me sens très à l'aise sur ce sujet. Au moment de la crise de 2008, j'avais écrit un très long papier à la une du Figaro qui s'appelait « Lettre ouverte à mes amis de la classe dirigeante » en leur disant « Faites attention, il faut que nous sachions raison garder ».
Oui, oui, ils s'en fichent, ils n'en ont pas tenu compte.
Tant pis, vous avez prêché dans le désert, c'est notre propre, c'est le propre de chacun de nous. Hein.
Alain Minc, vous restez avec nous, je voudrais que vous nous parliez particulièrement de deux pouvoirs, l'un selon vous surestimé, celui des propriétaires de médias, l'autre sous-estimé, celui des francs-maçons. À tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé demain sur Europe 1.
Avec Alain Minc qui nous propose un voyage au centre du système chez Grasset. Vous êtes Alain Minc depuis 40 ans au carrefour de quatre pouvoirs, vous l'avez rappelé, politique, économique, médiatique et intellectuel. Et vous m'avez laissé stupéfait par ces pages sur le pouvoir des francs-maçons. Phénomène en expansion, écrivez-vous. Quand un responsable de qualité prend une décision contraire à toute logique, deux suspicions s'imposent, la corruption ou la franc-maçonnerie. La première est rarissime, la seconde est fréquente. Les réseaux francs-maçons ont une telle puissance, Alain Minc ?
Oui, alors il ne faut pas non plus en faire un drame, mais c'est évident que la franc-maçonnerie existe encore. Elle existe d'abord dans les univers fermés, comme la police, comme la justice, mais elle existe quand même, dans une moindre mesure, dans le système capitaliste lui-même. Pourquoi dans une moindre mesure ? Parce que le système capitaliste est nécessairement, quand les boîtes sont cotées, ouvert et transparent, ou beaucoup plus transparent. Alors, est-ce un problème ? Alors, vous allez me dire, ou on peut me dire, mais vous, votre truc, l'inspection des finances, c'est pareil. Il y a une petite différence. L'inspection des finances, c'est à visage découvert, quoi. C'est un club anglais dont on connaît tous les membres. Le propre de la franc-maçonnerie, c'est une forme d'opacité qui n'est plus liée à l'idéologie d'antan, à part trois laïcards un peu décalés par rapport au temps d'aujourd'hui. Mais c'est une société d'entraide clandestine et qui, en effet, fonctionne beaucoup plus qu'on ne peut le penser. Moi, je m'en suis rendu compte dans ma vie d'entrepreneur, d'entreprise, puisque j'ai participé...
Dans les années 80, dites-vous.
Dans les années 80, avec mon patron, chez Saint-Gobain, on a attaqué une entreprise bourgeoisement, une entreprise boursièrement qui s'appelait la Générale des Eaux. Ouais. Et là, on a vu alors dérouler chez François Mitterrand toute une série de gens pour expliquer qu'il faut les mettre dehors, etc. C'était une entreprise, à l'époque, très forte dans le réseau franc-maçon.
Ouais. Mais ça, c'était il y a 35 ans, c'est encore puissant aujourd'hui.
C'est encore puissant aujourd'hui, voilà. Mais ce n'est pas une dictature non plus. Bon. C'est une forme d'opacité. C'est d'ailleurs assez amusant d'essayer de deviner. C'est un jeu.
Bon, et ce n'est pas un... l'idée d'un complot mondial que vous voulez dénoncer dans ces pages-là.
C'est une société solidarité pour troquer des avantages contre des avantages.
En 40 ans, écrivez-vous à la main que le pouvoir qui a le plus changé, c'est le pouvoir médiatique. Pourquoi ?
Mais parce que le pouvoir médiatique, en fait, était toujours régi par la presse écrite. Et vous le savez dans votre métier, les salles de rédaction des journaux de 8 heures, c'était le découpage du monde autrefois. Or, le cœur de ce système qui est la presse écrite est soumise à un tremblement de terre dont aucun autre secteur ne connaît l'équivalent. C'est-à-dire, le papier va mourir. L'information sur le net est contestée par l'irruption des réseaux sociaux. Tous les débats actuels sur les fake news en sont d'une certaine façon l'expression. Et donc, d'une certaine manière, on ne sait pas quelle sera la cartographie du système dans les 10 ans qui viennent. Ni vous ni moi ne pouvons dire qui gérera le système, un système de plus en plus atomisé, décentralisé, éparpillé.
Et vous alimentez, vous contribuez au débat actuel sur les propriétaires de, de médias privés. Vous dites, on n'a pas en France ce qu'on a par exemple en Grande-Bretagne, c'est-à-dire un Murdoch qui pourrait dicter une campagne à un journal aussi Absolument. Puissant que le Sun.
Aucun propriétaire de journal en France ne pourrait changer la ligne éditoriale d'un journal comme Murdoch l'a fait en Angleterre avec les journaux écrits, aux États-Unis avec cette chaîne qui a eu un pouvoir très considérable, qui est Fox News. Les propriétaires de médias, et ça c'est aussi la force des journalistes, qui se sous-estiment beaucoup de ce point de vue-là, les propriétaires de médias sont édentés.
Ils n'ont pas la main forcément sur la ligne éditoriale des médias qu'ils possèdent. Et rappelons que Murdoch est un étranger. Il est australien, il n'est ni anglais ni américain.
Absolument. Il pèse sur... Non, mais moi, j'ai présidé pendant 14 ans Le Monde. J'ai jamais eu la moindre influence sur quoi que ce soit en matière éditoriale.
Au contraire, vous êtes fait étriller à la fin.
Et pour montrer qu'ils étaient indépendants, ils me passaient à tabac. C'était un rite. Bon, voilà.
Un dernier mot, Alain Minc. On a commencé par la crise des gilets jaunes, quelques mots simplement. Quelle issue voyez-vous à cette crise? Quel débouché? Un référendum?
Attendez, d'abord, je pense qu'il faut voir que les gilets jaunes, du départ, ont exprimé la frustration d'une partie de la population. Et ça, il faut que nous en souvenions. Les gilets jaunes de la fin du mouvement, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et nous ne nous voilons pas les yeux. Il y a quand même dedans une agitation en particulier d'extrême droite, plus que d'extrême gauche, qui existe et qui est sensible. Reste qu'il ne faut pas qu'on se rassure avec cet aspect-là des choses. Je pense que, moi, le grand débat m'interpelle et m'intéresse. Je trouve que pour une fois où la France, qui est corsetée, en trouve une fenêtre, c'est intéressant de voir ce qui va se passer. Alors, ça n'est pas la solution à tout, de même qu'un référendum à questions multiples, parce qu'un référendum à questions uniques, c'est un plébiscite ou un anti-plébiscite, c'est une voie aussi intéressante. Mais à la fin des fins, la vraie question dans laquelle nous sommes, elle n'est pas institutionnelle, c'est en réalité, la classe moyenne n'a pas bénéficié des 20 dernières années de croissance, et là, le système touche sa limite.
Alain Minc, voyage au centre du système. Ça paraît dans quelques jours chez Grasset. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, on parle d'alimentation, d'agriculture, de viande rouge, de prairies et de fruits et légumes avec la géographe Sylvie Brunel. Demain, comment pourra-t-on nourrir une planète de 10 milliards d'habitants?
Europe 1. C'est arrivé demain, c'est jusqu'à 10h. Avec vous, Patrick Cohen.
Nous sommes un peu plus de 7 milliards et demi d'humains à peupler cette planète. En 2050, nous serons 10 milliards. Et nous serons un certain nombre à nous demander comment cette même planète pourra nourrir autant de monde sans la saccager. Bonne nouvelle, les 37 chercheurs de 16 pays qui se sont penchés sur la question pendant 3 ans et viennent de publier leur étude dans la revue The Lancet estiment que c'est possible à condition de modifier notre régime alimentaire. Moins de sucre et de viande rouge, plus de légumes. Bonjour Sylvie Brunel.
Bonjour Patrick Cohen.
Géographe, professeur à l'université Paris-Sorbonne, dernier ouvrage paru il y a quelques mois seulement, plaidoyer pour nos agriculteurs, il faudra demain nourrir le monde. Qu'avez-vous pensé du constat et des préconisations de ce rapport?
Ce rapport fait dans le bon sens. Il dit qu'un bon régime alimentaire, c'est un régime alimentaire équilibré, où il y a à la fois des céréales, des légumineuses, des protéines laitières et animales, des noix, de l'huile. Enfin, c'est un rapport qui montre que pour bien se nourrir, Hippocrate le disait déjà, que ton alimentation soit ta première médecine.
Alors ça, c'est côté alimentation. Côté production, qu'est-ce que ça suppose en matière de gestion de l'espace agricole et des pratiques?
Alors les agriculteurs jouent un rôle essentiel, bien sûr, parce qu'on n'a jamais encore trouvé le moyen de faire un grain de blé avec une imprimante 3D. Et nous avons besoin de satisfaire nos besoins alimentaires. Donc les agriculteurs sont 1,3 milliard sur la Terre et ils tiennent entre leurs mains l'avenir de la planète. Parce que leurs systèmes agricoles sont déterminants pour à la fois capter le carbone, fournir énormément de produits agricoles, préserver la biodiversité et les paysages. Donc nous avons, avec nos agriculteurs, toutes les solutions du développement durable.
Et vous pensez qu'on peut faire à la fois du bon pour la planète et du bon pour la santé?
Je pense même que c'est ce vers quoi s'oriente l'agriculture d'aujourd'hui. N'oublions pas que sur les 1,3 milliard de personnes qui cultivent la terre, il y a aujourd'hui dans les pays du Sud des agriculteurs qui souffrent à la fois de la faim, de matériel insuffisant, de techniques qui sont des techniques qui font que leurs rendements sont extrêmement faibles. Mais dans les pays développés, notamment en France par exemple, toute l'agriculture est engagée dans toute la diversité de ces modèles, dans ce qu'on appelle aujourd'hui une agriculture de précision, c'est-à-dire essayer de produire plus avec moins, en préservant les écosystèmes et en assurant bien sûr la qualité de notre alimentation. On a oublié que les contaminations alimentaires restent un des premiers risques aujourd'hui au monde, que par exemple un quart des récoltes mondiales sont contaminées par les mycotoxines. Ça, on ne le sait pas. On a oublié les contaminations bactériologiques. Et aujourd'hui, on est là en France à sans arrêt traiter nos agriculteurs de pollueurs ou d'empoisonneurs, alors qu'en réalité, nous avons une excellente agriculture qui, bien sûr, ne cesse d'évoluer, mais qui est une bonne agriculture.
Vous voulez dire que certains débats, Sylvie Brunel, sont marqués par une grande méconnaissance du public sur la réalité du travail agricole. Vous avez cité, alors c'est quoi? C'est les pesticides, les paysans utilisent trop de pesticides, on dit que demain ils peuvent se passer du jour au lendemain de glyphosate, ou que le maïs consomme trop d'eau, enfin voilà, quelques idées qui circulent dans le débat public.
Oui, ou qu'il faudrait ne plus manger de viande, qu'il faudrait bannir l'élevage.
Aussi.
Tout le monde se permet de donner des leçons de nature aux paysans, en oubliant que comme ils sont au contact de la nature, c'est eux qui la connaissent le mieux, et qu'ils essaient de tout mettre en œuvre justement pour avoir une démarche de responsabilité. Alors, les idées reçues sur l'agriculture, elles sont innombrables. Par exemple, qu'un seul modèle, le bio, la permaculture, les circuits courts, permettraient de nourrir le monde. En réalité, non, il faut la diversité des modèles. Cette recette du manger sain, par exemple, mise sur les céréales. Les céréales, ce sont les grandes cultures. Elles occupent 2/3 des superficies cultivées. L'élevage, par exemple, en France, la moitié de notre superficie agricole est occupée par des prairies. Il n'y a pas de milieu plus utile pour la biodiversité. Quand on dit qu'il ne faut plus manger de viande, on oublie que ça voudrait dire condamner l'élevage.
La disparition des prairies serait une catastrophe.
C'est dramatique. C'est la fermeture des paysages, c'est l'embroussaillement, ouais. C'est la friche, c'est le feu. Et puis, dans les pays du Sud où l'élevage valorise les steppes, la montagne, eh bien c'est la faim, c'est l'exode rural. Donc il faut faire très attention de bien comprendre que l'agriculture aujourd'hui, c'est une profession extrêmement intelligente. Faut plus voir les agriculteurs comme des bouseux. On pourrait même dire, si vous voulez, que ce sont des managers de la photosynthèse, c'est-à-dire des gens qui gèrent le carbone, des gens qui gèrent les sols, des gens qui gèrent le bien-être animal, parce que si votre animal ne va pas bien, votre élevage ne va pas bien. Des gens qui s'interrogent en permanence sur comment faire mieux, et c'est d'autant plus difficile pour eux qu'on ne cesse de leur interdire l'utilisation de produits. On dit, ben, il faut arrêter ça. Alors, ils disent, d'accord, on veut bien s'adapter, mais donnez-nous le temps, donnez-nous les moyens. Nous, on a dû combattre les contaminations bactériologiques. Regardez, aujourd'hui, on parle du retour de la peste porcine, on parle de toutes les grandes, ce qu'on appelle les grandes zoonoses, les grandes maladies. On a oublié ça en France, parce que notre alimentation, elle est sûre, parce que notre espérance de vie est record. Donc, nous ne savons plus quel danger nous menace. Et l'agriculteur, lui, il sait quel danger nous menace.
Et pour reprendre l'exemple du glyphosate, il faut des solutions pour cultiver sans les mauvaises herbes, sans ce que les agriculteurs appellent les adventices. Sinon, évidemment, c'est des cultures fichues. Il faut trouver des solutions.
Vous savez, il y a un proverbe en France qui dit séparer le bon grain de l'ivraie. Dans les tableaux de Monet, on voit des champs envahis totalement de coquelicots. Alors, nous, on veut des coquelicots, mais il ne faut pas oublier que quand on ne traite pas contre tout ce que la nature invente pour nous voler notre nourriture, c'est-à-dire les insectes, les champignons et ces mauvaises herbes, les adventices, eh bien c'est dramatique. En France aujourd'hui, 1 hectare de céréales sur 2 est destiné à l'exportation. On pourrait dire ça sert à rien. Mais non, c'est totalement faux parce que sur ces céréales, la moitié vont au Maghreb. Et au Maghreb, le prix de la nourriture conditionne la paix sociale. Si les gens ne mangent pas à leur faim, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont désespérés, ils partent. Et toute cette question de la paix, de la géopolitique, elle repose sur une alimentation de qualité.
Nourrir l'humanité, sauver la planète et faire vivre décemment les paysans, les agriculteurs. C'est quand même aussi, vous venez de célébrer leur mérite et leur travail, Sylvie Brunel.
Ils
la question de la rémunération du travail agricole, c'est une question qui se pose y compris dans des pays développés comme la France.
Mais surtout dans des pays développés comme la France, où il y a un profond découragement du monde agricole qui a l'impression qu'il n'est pas reconnu. Moi, je le dis, les agriculteurs ont droit au respect, ils ont droit à la reconnaissance des efforts qu'ils mettent en œuvre pour répondre à nos attentes, et ils ont droit à une rémunération digne, parce que sinon, nous irons vers des campagnes sans paysans, et des campagnes sans paysans, ce sont des territoires qui disparaissent. Sans agriculteurs, un pays meurt.
Merci Sylvie Brunel. Je rappelle votre dernier livre, Plaidoyer pour nos agriculteurs. Il faudra demain nourrir le monde chez Buchet Chastel. Merci à vous.
Merci Patrick Cohen. Europe 1.
Dans un instant, l'amour des livres, de la littérature, des libraires, des profs, des bibliothèques, tout cela célébré par l'écrivain Michel Lebris.
Europe 1. De 9h à 10h, retrouvez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Voici à présent le livre des livres, le livre d'un fou de livres, d'un fou de littérature, de librairie, de bibliothèque, y compris celles qui se répandent dans sa maison. Bonjour Michel Lebris.
Bonjour.
Éditeur, écrivain, spécialiste de Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, créateur du festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo, vous faites paraître pour l'amour des livres chez Grasset, ces livres dont vous avez cru être définitivement privés. Après un accident de santé, vous vous réveillez à l'hôpital sans pouvoir lire et donc écrire parce que vous voyez flou et vous vous dites « je suis mort, c'est fini ».
Exactement. Et comme quand on vous amène après la réanimation en chambre comme ça, vous êtes bourré de morphine, vous avez tout qui tourne dans la tête et j'ai passé une nuit assez terrible. On me dit « tout d'un coup, je n'avais pas pensé au début, tout d'un coup je me dis « mais c'est si fini. Je ne peux pas lire ». Je ne peux pas écrire, ouais. Et donc je suis mort, comme écrivain.
Ça n'a duré qu'une nuit, parce que le chirurgien, au matin...
Je lui dis ça va, peut-être en santé, lui. Je dis, franchement, là... Et puis il me dit, mais je ne vous l'avais pas dit. Non, c'est, ça va revenir, le cerveau va reconnecter les perceptions. Ça va. Oui, certes, mais j'ai passé quand même une nuit... qui m'a fait passer en boucle tout ce qui s'était joué autour du livre pour moi, parce que j'ai vu d'où je viens, c'est le livre vraiment qui est... je me suis construit à travers les livres.
C'est toute votre vie. Vous nous faites revivre, Michel Lebris, votre première grande émotion de lecture, c'est La Guerre du Feu,
oui.
Le grand roman préhistorique adapté bien plus tard au cinéma par Jean-Jacques Hano.
Oui, hélas, parce que franchement...
L'adaptation, oui, mais
c'était
le livre...
C'était pas ma guerre du feu à moi, disons quoi. Moi, c'était plutôt Slip Panther, Tarzan, tout ça, ouais. Que des machins simiesques qui est articulant des borborygmes. Ouais. Mais c'est quand même un truc étonnant, quoi. Ma mère m'amène à la librairie Rioux Cornet
À Morlaix,
pour... parce que j'avais passé l'examen d'entrée en sixième, donc j'avais droit à un livre. J'achète dans la collection Rouge et Or, j'en ai 10 exemplaires à la maison maintenant, La Guerre du Feu, et je lis les premières phrases. Les Oulras me fuyaient dans la nuit épouvantable, tout leur paraissait vain devant la calamité suprême, le feu était mort. Waouh!
Et là, vous êtes embarqué instantanément.
Ah oui, c'est, j'en connaissais des pages par cœur. Je rédige ma rédaction, la première rédaction, sixième, je remplis un cahier, quoi. Monsieur Rospar me regarde, mais attends là, qu'est-ce qui se passe? Donc je lui explique. Et il a quand même eu cette attitude incroyable, ça a décidé de ma vie, d'une certaine manière. Il dit, écoute... Si tu as envie de raconter d'autres trucs que les sujets que je donne moi pour les rédacs, tu peux le faire si tu veux. Ouais. J'ai eu ce sujet libre avec lui pendant 4 ans. J'ai écrit une petite nouvelle toutes les semaines, voilà. Grâce à ce personnage exceptionnel.
Vous dites merci à ceux qui vous ont initié, donc instituteurs et professeurs, Monsieur Rospar, Monsieur Andrieux. Vous dites merci à la Bibliothèque Verte. Vous dites merci, Michel Lebris, à tous ces livres qui nous ont grandi, qui nous ont fait voir... plus loin, vous nous donnez envie de lire ou de relire Victor Hugo. C'est votre grand homme, Victor Hugo.
Ah oui, et puis encore aujourd'hui. Tenez une phrase de Victor Hugo, la foule est peut-être le pire ennemi du peuple.
Du peuple, la foule
c'est
est
à
le
méditer,
pire.
C'est ce qui se passe aujourd'hui, je crois. On n'arrête pas de tomber sur des phrases absolument foudroyantes de Victor Hugo. C'est un immense écrivain, c'est un immense penseur. Et moi, quand je l'ai... je l'ai découvert par Le Rhin.
Le recueil méconnu à découvrir, parce que moi je ne l'ai pas lu encore, Le Rhin. Merci au libraire Michel Lebris, scène incroyable, un jour dans une librairie parisienne, vous saisissez le roman d'un auteur méconnu, et le libraire, timide et silencieux, vous dit « non, lisez plutôt celui-ci du même auteur ».
Oui, et donc je lui dis, je l'ai lu, c'est un chef-d'œuvre, L'araignée d'eau de Marcel Béalut. Et puis il me dit merci. Donc, moi, j'aménageais dans l'immeuble à côté de cette librairie, puis dans l'escalier. Il m'a dit merci. Il me dit ça sur un ton très particulier, donc je redescends. J'ai dit, mais pourquoi? Mais il dit, merci. Il dit, parce que je suis Marcel Bialu.
Bialu, c'est
vous moi. Savez, les libraires, c'est pas des distributeurs de livres automatiques, sinon passons par Amazon et puis c'est plus vite fait. Quand ils sont comme ça des transmetteurs, ils peuvent être extraordinaires. Et j'ai passé beaucoup de temps aux côtés de Bialu, comme aux côtés de Pierre Béarn, non loin, qui était un sacré personnage aussi. Et cela, il vous apporte quelque chose de formidable. Et d'ailleurs, tous les libraires qui font ce travail-là ont des librairies qui marchent. Et parce que là, ils apportent un plus. Ce que je résume en disant, la chance d'aller dans les librairies, c'est de découvrir ce que l'on ne cherche pas. Pas ce que l'on cherche, ce que l'on ne cherche pas. On tourne des couvertures, on lit les quatrièmes, ou le libraire dit, vous savez, il y a un truc intéressant là, etc.
C'est la découverte.
Découvrir ce que l'on ne cherche pas, c'est la définition même de la relation humaine, relation amoureuse, relation, etc. C'est absolument capital. Si simplement les livres sont disponibles simplement sur des sites en ligne, on perd quelque chose du sens de l'humain.
Vous dites merci aux bibliothèques, même quand elles débordent. On apprend que vous possédez plus de 500 livres sur Stevenson, oui. Et que vous avez quoi, des centaines de mètres et davantage de rayonnage chez vous. Vous ne voulez vous en séparer d'aucun.
Un kilomètre de cent.
J'ai mesuré,
voilà. Parce que j'ai envisagé de déménager. Et il faut encore trouver un endroit où, voilà, donc je crois que je ne bougerai pas de...
En quelques secondes, et juste, on ne fait pas de liste, mais juste, le livre que vous aimeriez découvrir comme si c'était la première fois, Michel Lebris.
C'est une question piège, parce que là, je suis environné de tellement de livres d'auteurs qui me surveillent, comme ça, qui m'entourent, j'ai l'impression que j'en trahirais... Des milliers.
Alors,
si j'en choisissais
j'ai un. Une autre question, alors, un autre choix. Le poème que vous récitez sans jamais vous lasser, parce que vous aimez les poèmes et vous aimez la récitation des poèmes.
Alors, moi, oui, c'était très mal vu. Jadis, la récitation, c'est alors vraiment réactionnaire, etc. C'est une manière de découvrir la musique. Pour se souvenir d'une récitation, d'un poème, il faut en percevoir la musique, le rythme, les sonorités, ce que c'est que la littérature d'une certaine
Alors,
manière.
Alors un choix.
Guilvic, le recueil Terraquet, ça n'a jamais manqué à chaque fois que, j'en ai distribué des tonnes, à chaque fois que j'ai donné ce livre-là, j'ai eu y compris auprès de gosses, ils en ont été bouleversés.
Guilvic. Recommandation oui. De Michel Lebris pour l'amour des livres chez Grasset. Merci beaucoup Michel
Merci
Lebris d'être
vous.
Venu nous en parler.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, Viggo Mortensen en italo-américain qui accompagne un musicien noir dans le sud raciste des années 60. Le film s'appelle Green Book. Viggo Mortensen en interview et en français dans un instant.
Europe 1. Chaque dimanche, on vous retrouve Patrick Cohen avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Bonjour Viggo Mortensen.
Bonjour.
Qui pouvait vous imaginer dans la peau d'un père de famille italo-américain du Bronx, avec son accent, ses manières grossières, son appétit, son ventre? Vous avez pris ça comme un défi?
Oui, bon, bonne question. Comment faire? J'avais peur. Au début, quand Pete Farrelly, le réalisateur, m'a proposé ce rôle, je lui ai dit que c'était un très beau scénario, mais j'étais pas sûr. Il y a plein de bons comédiens italo-américains, et c'est pas moi, je suis pas italien.
Vous n'êtes pas
danois.
De Niro, vous n'êtes pas Joe Pesci, vous n'êtes pas Danny DeVito.
Non, non. C'était déjà un risque pour lui de faire un film comme ça, comme Green Book, et puis... C'était un risque de me prendre pour ce rôle. Et il a dit, non, je crois que tu peux le faire. Et au début, j'ai dit, bon, laisse-moi penser. Puis j'ai pensé, j'ai relu le scénario. Et chaque fois que j'ai lu le scénario, j'ai pensé, bon, c'est très bon, ça. Et puis j'ai dit, ouais, ok, Pete, on va le faire. Je sais pas comment, mais... Et heureusement, j'avais l'aide de Nick Vallelonga, le fils de Tony Vallelonga, Tony Lip, mon personnage. Et il était là, sur le plateau, tous les jours. Et il a été très généreux avec moi. Et peu à peu, j'ai trouvé la façon de faire le rôle.
L'accent, la cigarette, les hot dogs, les pizzas.
Oui, j'ai beaucoup mangé.
Vous êtes transformé physiquement, vous avez.
Oui, mais c'était la chose la plus facile de la préparation, disons. Mais c'était intéressant d'écouter les enregistrements que Nick avait de son père, où il parlait, entre autres choses, de la relation avec Don Shirley, de ce voyage qu'on voit dans le film. Et peu à peu, j'ai fait la construction du personnage avec eux et avec l'aide de Pete Farrelly, bien sûr.
Votre personnage, Viggo Mortensen, n'est pas seulement grossier, il est aussi raciste. On le voit au tout début des films.
Complètement.
Dans un détail, il met à la poubelle deux verres qui ont été utilisés par deux Noirs. C'est sa femme qui trouve ça au fond de la poubelle. Est-ce que vous avez été surpris, en lisant le script, de voir que c'était la mentalité de l'époque, même à New York, puisque cette
non, votre pas personnage, du tout.
Il est
pas du tout.
Dans le Bronx à New York.
Mon père vient de cette génération, même s'il est danois. Il est venu aux États-Unis pendant les années 50. Il était comme les autres blancs, disons, de la génération de l'après-guerre. Ils étaient tous comme ça, un peu. C'était normal, à l'époque. Et je crois qu'il y avait un peu de pression, un peu de peur par la part du studio, avec cette scène et des autres. Mais je suis content de les avoir dans le film. C'est important de voir comment Tony est capable à la fin d'évoluer, de changer. Et c'est ça que Don Shirley, le rôle de Mahershala Ali, il voit ça. Peu à peu, il voit que Tony n'est pas stupide, qu'il écoute, qu'il apprend et qu'il est capable de changer, de se connaître. Mais il y a les gens qui disent bon, c'est un bon moment maintenant pour Green Book, pour un film comme ça, parce que tout ce qui se passe aux États-Unis et dans le monde avec le racisme, la discrimination vers les immigrants, partout on voit ça. Et j'ai dit c'est un très bon moment, mais c'est toujours un bon moment pour ce film. Parce que la discrimination, le racisme, ça va pas disparaître. Jamais. Le travail de chaque génération, de chaque personne, c'est de surmonter ça, de comprendre, d'apprendre. Les enfants, ils jouent sans penser aux couleurs de la peau, ou les différences. Et on apprend peu à peu, partout. Même si on vient d'une famille, disons, humaniste, peu à peu, pendant l'adolescence peut-être, on apprend à faire des distinctions, à se voir comme supérieur ou inférieur, ou pas du tout important peut-être. Et le boulot de chacun, si on a de la chance, c'est de, consciemment, de pouvoir changer, d'apprendre à jouer comme on l'avait fait comme enfant, c'est ça.
Au fond, Green Book, c'est un film qui rend optimiste dans un monde qui vous rend et qui nous rend pessimiste chaque jour.
Oui, il se peut. Parce que c'est une invitation à penser, à réfléchir, ce film. C'est ça que j'aime. Ce n'est pas un film idéologique, disons. C'est un film pour tout le monde. Et c'est important. Ce n'est pas un film fait pour une petite section du public.
Alors, ce film, Viggo Mortensen, c'est une métamorphose pour vous, parce que vous n'êtes plus quand même le sexe symbole qu'on a vu dans tant de films. Et puis, c'est un virage aussi pour Peter Farrelly, qui réalise son premier film seul, sans son frère, et qui vient d'un cinéma qui est très éloigné du vôtre. Est-ce que vous connaissez les films des frères Farrelly? Est-ce que ça vous auriez pu tourner là-dedans? Est-ce que ça vous faisait rire? Est-ce que Marie à tout prix ou d'autres films de ce genre, vous étiez client?
Non, j'avais lu des nouvelles et un roman qu'il avait écrit, Pete Farrelly. Ouais. Je savais qu'il avait le côté sérieux aussi, mais quand même, il n'a jamais fait un film comme ça. Et j'étais très content quand il était nominé comme réalisateur. C'était incroyable. Quand on était au premier festival de Toronto
bien sûr.
Où on a gagné le prix du public.
Prix du public, ouais.
Là, il a dit, sur scène, il a dit, « Bon, this is my first film festival. » C'est mon premier festival. Et ils ont ri, ils ont dit, non, au sérieux. Je n'ai jamais été dans un festival avec un film. Ouais. Et c'est vrai. Ouais. Et maintenant, il a été nominé plusieurs fois comme réalisateur, comme scénariste. Et je trouve ça génial.
Et maintenant pour les Oscars, peut-être.
On va voir.
En route. Merci beaucoup, Viggo Mortensen.
Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Viggo Mortensen dans Green Book à l'affiche mercredi prochain. Dans 5 minutes, le grand rendez-vous. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour à tous.
Votre invité.
Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Il s'est montré souvent très offensif sur le mouvement des Gilets jaunes. On attend de lui ce matin qu'il nous éclaire sur les issues démocratiques données au grand débat qui a été lancé cette semaine.
Dans moins de 5 minutes, excellente journée à l'écoute d'Europe 1.